Bonjour Robert Bobert.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau.
Ben, c'est toujours un plaisir. De toute façon, on aime bien que les gens s'intéressent à nous.
Là, vous êtes juste derrière vous, nous avons un mur de livres et de citations et beaucoup de photographies, y compris vous avec un bébé dans les bras. Et nous aimerions commencer, enfin j'aimerais commencer. Cette série d'interviews par l'enfance qui est très très présente dans votre œuvre. Les enfants sont présents, l'enfance elle-même et même les enfances au pluriel. Et dans votre dernier livre paru en 2020, Par instant la vie n'est pas sûre, l'enfance est incarnée par votre petit-fils Joachim. Vous lui dédiez vos livres, par exemple On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, paru en 2010.
Enfin, Joachim et Sacha,
Oui, tout à fait.
le petit frère.
Joachim et Sacha, donc à qui sont dédié, est dédié ce livre, pardon. Et l'extrait que j'aimerais vous lire, c'est très émouvant et impressionnant de lire un extrait devant l'auteur lui-même. C'est un extrait qui m'a beaucoup frappé. C'est précisément dans Par instant, la vie n'est pas sûre. Au moment où vous faites découvrir la rue de votre enfance, la rue de la Butte aux Cailles, à votre petit-fils Joachim. Donc, à cette occasion, des échos se créent avec le passé et avec vos livres précédents, dont je parlerai aussi tout à l'heure. Donc, si vous permettez, je vais vous lire le court extrait qui raconte cet épisode. Je suis souvent revenue dans cette rue pour laquelle j'ai gardé une véritable tendresse. Je savais que la petite épicerie n'avait plus rien de son apparence. Mais jamais autant que dans le regard de Joachim, m'écoutant avec tout le sérieux de ses 10 ans, je n'avais à ce point ressenti l'absence d'Henri Beck. L'effet fut soudain. Je revoyais avec une exactitude stupéfiante, presque suffocante, le visage d'un autre enfant. Devant moi, sur le bord du trottoir, il y avait un petit garçon, Joachim, sur le visage duquel venait de se superposer celui d'un autre, porteur d'une étoile jaune, qui avait presque le même âge. Les deux visages se superposaient, pour ne faire qu'un, et j'avais la sensation très vive de revivre ce moment où Henri Beck, ce matin de juin 1942, m'avait attendu pour, dans une étrange solitude à deux, nous mettre en route pour l'école. Cette vision, que j'avais crue un moment passagère, était maintenant tenace. Elle n'avait pas traversé toutes ces années. Elle les avait annulées. On voit bien dans cet extrait comment l'espace de la rue est propice au retour soudain du souvenir, et de quelle manière vous entrelacez les temporalités et les personnes. À travers le visage de votre petit-fils, alors âgé d'une dizaine d'années, comme vous le dites, vous revoyez votre ami Beck, comme on revoit dans votre film En remontant la rue Villain en 1992, Georges Perec, enfant. Dans ce film, ce sont les photographies qui permettent le retour du souvenir et du passé. Mais cet extrait que l'on vient d'entendre renvoie aussi à votre propre enfance. Alors, empruntant le titre du livre de Sophie Bobert, je voudrais vous demander, quel enfant étiez-vous, Robert Bobert?
Je sais pas, je sais pas. Alors, entre parenthèses, j'aime autant que ce soit vous qui... moi, je ne peux pas lire ce texte à voix haute.
Oui,
Voilà,
c'est...
bon. Alors, je peux pas vous dire quel enfant j'étais. J'étais un enfant comme ces enfants du quartier, la Butte aux Cailles, qui était un quartier très populaire, où on jouait dans la rue, parce que les appartements étaient petits. Les toilettes étaient dans la cour. Les douches, c'était les douches du dimanche, les douches municipales. Voilà. Et je crois pouvoir dire que j'étais un enfant heureux, voilà, avec des copains. La vie me semblait être normale, telle qu'elle se déroulait. Et c'est plutôt d'autres personnes, mais sans plus de ce monde, qui auraient pu dire quel enfant j'étais.
On voit très bien l'amitié très forte qui vous relie à Henri Beck, puisque c'est le sujet d'un de votre autre livre, Berg et Beck, qui lui est paru en folio en 2001. Au début du chapitre 4, il y a une magnifique lettre. Vous aimez beaucoup les lettres et nous aimons beaucoup lire vos lettres et les lettres des autres et des personnages que vous insérez dans vos livres. Et Joseph Berg, c'est-à-dire vous, évoque un souvenir partagé avec Beck. Ce n'est pas n'importe quel souvenir. C'est le souvenir de la lecture des aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Ce roman de Twain apparaît au début de Berg et Beck. L'instituteur le prête à Berg, car c'est lui qui lit le plus rapidement.
Non, à Beck.
À Beck? Ah,
je crois.
Oui.
Je me suis trompé.
Enfin. C'est ce souvenir de lecture, enfin le partage de la lecture, c'est ce que vous faites dans vos livres. Mais quel rapport avez-vous à la lecture? Vous dites parfois, vous avez appris tardivement à lire. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Je n'ai pas appris tardivement à lire à l'école, mais j'ai lu tardivement les livres. Voilà, donc, je croyais que, j'en parle d'ailleurs, mais que les livres étaient réservés, étaient bien réservés à ceux qui continuaient leurs études.
Voilà. Oui.
Alors j'avais quelques copains, surtout, pas tellement des copains de quartier, mais dans cette organisation où des enfants juifs se sont retrouvés après la guerre, quelques copains qui allaient... en classe, alors bon, je les entendais parler de noms que je ne connaissais pas, Marivaux, Molière, etc., et tous les autres. Je me disais, mais ça, c'est leur conversation, c'est normal, puisqu'ils apprennent ça à l'école. Et moi, je ne me sentais pas du tout concerné, et ni même curieux de ça, puisque ce n'était pas du tout mon univers. À part ça, bon, on allait en vacances ensemble, encore des vacances, on chantait, on faisait du sport, voilà. Et il a fallu que je tombe un jour, je ne sais plus dans quelles circonstances, sur ce livre de René Fallet, Banlieue Sud-Est, pardon, et qui, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que ce type qui avait écrit ça, me connaissait. Et en fait, je crois qu'on est fallait l'a écrit très tôt. C'est son premier bouquin, je crois qu'il avait 17-18 ans. Et voilà, il parlait du baby-food dans les bistrots, du métro, de la gamelle qu'on emmenait au travail. Moi, c'est ce que ma mère m'a préparé une gamelle. Le soir que j'emmenais demain matin pour manger. Les restaurants, on ne connaissait pas. Hein. Tout le monde emmenait sa gamelle. Voilà. Et il y avait tout ça dans le livre. Et je me dis, c'est quand même curieux que dans un livre, on raconte des choses qui sont si proches. Alors, la lecture on ne se dit pas tout de suite, ah ben voilà, c'est bien la lecture, je vais me mettre à lire. Pour moi, c'était l'exception. Et donc, la lecture est venue que petit à petit. Voilà. J'essayais de trouver dans un livre des choses où je me sentais concerné, dans lesquelles je pouvais me retrouver éventuellement. Et c'est bien plus tard que petit à petit, j'ai lu d'autres choses. Et en plus, je lis lentement, je continue à lire lentement, mais c'est aussi bien. Voilà. Et ce que j'aime bien également, ça je m'en suis rendu compte, c'est que quand je lis un paragraphe, des fois qui me touche, je reste avec. Je ne continue pas tout de suite. Enfin, je veux dire, il ne se passe pas des heures entre deux paragraphes. Mais voilà, c'est pour rester. Vous savez, c'est comme en musique, quand on écoutait les disques avec avec l'aiguille. Des fois, il y a un passage qu'on aime bien, on prenait l'aiguille, on la remettait 2-3 cm plus bas pour retrouver ce passage plusieurs fois. Et en lecture, je fais ça aussi. Voilà, donc, je suis très attaché à ces moments. Donc, ce qui fait que j'ai pas beaucoup lu, enfin j'ai quand même lu, je lis plus que le français moyen, comme on dit, mais moins que quelqu'un dont c'est la période où j'ai le plus lu, c'est surtout quand j'ai travaillé avec Pierre Dumeuillet, je lisais à peu près un livre par semaine. Voilà. Enfin, j'essaye de m'y tenir entre 40 et 50 livres dans l'année. Quand je suis en écriture, je lis moins également, parce qu'il y a le temps de l'écriture qui est long. Je fais tout très lentement, écrire aussi. Quand je vois qu'il y a des écrivains qui sortent un livre tous les ans, je ne sais pas comment ils font. Enfin, j'ai besoin de rester avec les personnages. Il est vrai que dans mes livres, les personnages prennent plus de place que les idées. Alors, c'est peut-être pour rester plus longtemps avec eux, sûrement.
Oui. Je voudrais vous poser une autre question sur votre rapport au yiddish. Dans votre premier roman, paru en 1993, donc
Oui.
après votre production
Oui.
de films, de
Oui.
documentaires, Quoi de neuf sur la guerre, vous mettez en scène à la fin du roman un tout jeune homme anonyme qui joue une berceuse yiddish en s'accompagnant au violoncelle devant la tombe de Nathan, qui est un des personnages du livre, qu'il a connu enfant. Je vais vous lire un tout petit extrait, si vous permettez, à nouveau. J'aurais voulu dire aussi, c'est ce que pense le jeune homme, pardon, j'aurais voulu dire aussi que j'aurais bien aimé dire ces quelques mots en yiddish, parce que c'était la langue du temps où il vivait avec ses parents, la langue du temps où il était totalement vivant. Mais ça, je ne sais pas le faire. Est-ce que c'est vous, Robert Bobert, ce tout jeune homme?
Oui, c'est un peu moi aussi. Alors, ce Nathan, beaucoup de gens, j'ouvre une parenthèse,
Oui.
rappelez-moi quand est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse, parce qu'en général,
Oui.
j'ouvre une parenthèse, et comme je ne sais plus quand elle a été ouverte, je ne sais plus comment la fermer. Et surtout, je n'arrive pas à reprendre mes idées. Voilà. Nathan est un. On l'a pris pour Pérec, parce que je vais dans la rue Vilain. Voilà. Mais Nathan existait, Nathan Elzenstein, qui était. Qui rentrait de déportation, qui a été déporté adolescent. Il devait avoir 3 ou 4 ans de plus que moi. Et puis on avait des projets ensemble, etc. Il est mort d'un cancer du poumon. Et donc, voilà, donc il y a eu cet enterrement. C'est quelqu'un qui avait vécu également à un moment donné avec Marceline Loridan. Et alors, évidemment, il ne s'est pas passé cette musique, il n'y a pas eu de musique, mais c'est pourquoi j'appelle
Oui.
mes livres des romans, même si des choses sont vraies, il
Oui.
suffit même qu'il n'y ait qu'une page qui ne soit pas vraie, mais que j'espère juste tout de même. C'est pourquoi j'appelle roman.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé en moi, et pas forcément dans la vie. Et puis le violoncelle, c'est certainement l'instrument de musique qui me touche le plus. Voilà, je ne peux pas écouter un air de violoncelle sans pleurer. Voilà. Mais le personnage, oui, ce personnage, bien sûr, c'est un peu moi. Voilà. Et Nat parlait yiddish couramment, lui. Donc, il avait fait un film avec Rachel Ertel, entre autres, sur le yiddish.
Vous êtes capable de le lire, de
Non, non,
parler,
malheureusement, je ne le lis pas, je ne l'écris donc pas non plus, mais je le comprends.
d'accord.
Mais je ne comprends pas tout, c'est-à-dire que le yiddish, que je comprends, que je parle, c'est un yiddish vécu et non pas appris.
D'accord.
Alors ceux qui apprennent le yiddish maintenant le lisent, l'écrivent, etc. Mais il n'y a pas. Je l'entends d'ailleurs dans le premier livre, Quoi de neuf sur les guerres. Beaucoup de gens étaient persuadés que je parlais yiddish parce qu'ils avaient l'impression que les choses qui étaient traduites du yiddish, et effectivement, dans les dialogues, voilà. Et parce qu'il y a des gens qui m'ont dit votre livre, vous l'avez écrit en français, mais on l'a lu en yiddish. Et des fois, il suffit de déplacer le verbe dans une phrase. J'aime pas, quand on écrit, lire avec les accents. Les accents écrits sont toujours faux. Parce que si on ne les entend pas, ça ne sert à rien.
Oui.
Donc, il faut qu'on entende la musique de la langue, plutôt. Alors, même des fois, une virgule ou un mot déplacé, et on entend. Et tous les yiddishistes ont lu. Au point qu'il y a eu, la culture yiddish à l'époque, un petit groupe de travail qui ont traduit en yiddish Quoi de neuf sur les guerres. Ils n'y arrivaient pas, parce que toutes les plaisanteries, etc., passaient en français, et en yiddish, ça devenait la conversation normale. Ils avaient beaucoup de mal, ils étaient obligés de rajouter des petites choses pour retrouver la langue. Et finalement, ouais, c'est une autre langue. Mais il y a que les yiddishistes qui s'en sont rendus compte de ça, que c'était écrit.
Ah, c'est
Mais ça, je regrette. Si j'aurais dû, mais comme ce sont d'autres caractères, c'est plus long mais c'est important quand même. Si j'avais su que ça allait devenir très important, je croyais que quand j'ai fait le premier film, sur tout premier documentaire, c'était sur Sholem Aleichem. J'avais rajouté un écrivain de langue yiddish, puisque personne ne le connaissait. Et donc, pour la première fois, on a entendu le yiddish à la télévision. Donc, ça y est, je me suis dit, ça y est, j'ai fait mon boulot. Je me passais à autre chose. Et en fait, tout en passant à autre chose, c'est quelque chose que j'emmenais avec moi. Et j'aurais dû à ce moment-là apprendre. Après, c'est trop tard. Voilà, jusqu'à un certain âge, on peut apprendre des langues pas tout à fait étrangères, plutôt familières. Mais voilà. Et par contre, mes fils et mon petit-fils, qui a passé sa bar mitzvah, sont obligés d'apprendre. Et quand il y avait un texte, une phrase à lire en yiddish, eux le lisaient sans le comprendre, et moi je leur disais ce que ça signifiait. Il fallait qu'on soit deux.
Oui.
Voilà.
J'ai une avant-dernière question, Robert Bobert, à propos des maisons d'orphelins dont vous parlez beaucoup dans vos livres, dont le manoir d'Andrézy.
Oui, et si on coupe un tout petit
Oui,
peu,
pardon.
le mot orphelin,
Oui.
les enfants de ces maisons d'enfants le refusaient, ce mot
Oui.
d'orphelin.
Vous faites bien, oui, de le
Parce
dire.
que
Oui.
c'est pas un reproche,
Oui,
hein,
oui,
sur
oui.
vous, hein, voilà, ils ne veulent pas, ils auront des enfants dans les maisons d'enfants, dans les foyers pour enfants, mais pas orphelins. C'était pas un orphelinat.
Oui.
Voilà. C'est sur des gens qui avaient décidé, juste à la libération, même pendant la guerre, d'abriter des enfants et de leur donner une éducation.
À l'origine, ce sont les enfants de déportés,
Les
non?
enfants
C'est ça?
déportés,
Oui,
oui.
c'est ça. Et donc, vous racontez dans vos livres votre expérience de moniteur là-bas. Il y a Andrézy, il y a aussi Tarnos, dont vous parlez beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait qui raconte un épisode dans Berg et Bec? Tenez, je vous le passe.
Oui. Ah oui, alors oui, j'ai vu ce texte. Alors, hors contexte, il est difficile de comprendre, mais enfin bon, on va en parler. Alors là, il faut que je change de lunettes.
Merci beaucoup, Robert Bobert, de nous faire l'honneur de nous lire ce
Non,
passage.
c'est pas un honneur.
Mais si, mais si.
bon, faudra. C'est difficile aussi de trouver un bon début. Bon. Lassé peut-être de ces perpétuels circuits, Émile, sans enlever ses patins, donc les patins roulettes, voilà, est venu s'asseoir sur le banc près de moi. Il regardait sans rien dire, mais semblait guetter quelque chose qui sortirait du journal. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en repensant avec Émile, si près de moi, à Willy et son histoire de poule mangée à la Noël. On verra, si on parle de cette histoire de poule. Ouais. Tu t'intéresses au vélo? Mais je ne sais pas en faire, a dit Émile. Tu ne sais pas en faire. Tu sais que c'est plus facile que de faire du patin à roulettes? Lorsque les enfants sont arrivés pour le goûter, seul Daniel eut l'air surpris en voyant Émile sur un vélo. Émile me fait raconter qu'il ne savait pas faire de vélo, me dit Daniel, alors que les enfants prenaient leur goûter. Mais c'est vrai, il vient d'apprendre. C'est tout ce qu'on avait pu se dire, parce qu'il avait fallu s'occuper de devoirs et des enfants. Émile, lui, continuait de tourner inlassablement à vélo dans le parc. Et bien qu'en danseuse, parce qu'il était trop petit pour à la fois s'asseoir sur la selle et toucher les pédales, il se sentait en parfaite sécurité. Tout en lui désirait tellement faire du vélo qu'il me semblait qu'il n'en descendrait plus. Lorsque je l'ai eu lâché après la première ligne droite et que je lui criais « Ne regarde pas ta roue, regarde devant toi », accomplissant un large virage, il s'était retourné en souriant. Et ce sourire d'Émile, passant et repassant près de moi, me renvoya alors, que je ne m'y attendais pas, aux mains de Paul en serrant ma taille au moment où nous roulions en moto sur les routes de Ternos. Quelque chose de notre confiance commune assurait son équilibre et nourrissait certainement chacun de ses coups de pédale jusqu'à l'insouciance. Voilà, il faudrait alors cette histoire de ça renvoie une histoire de moto. Et voilà, c'était assez au moment de la sieste, un enfant un peu agité voulait ne pas faire la sieste, empêchait les autres de faire la sieste, etc. Et que donc celui qui parle à la première personne, le moniteur, lui dit, viens avec moi et monte sur la moto. C'était tellement surprenant comme acte
Oui,
pédagogique.
c'est ça.
Il est monté sur la moto et puis ils sont partis en poteau en roulant de plus en plus vite jusqu'au moment où cet enfant turbulent a pris le moniteur par la taille. Et à ce moment-là, tout était dit. Voilà, il s'est couché, il a fait la sieste tranquillement. Voilà. Et c'est important. Moi, j'ai appris énormément. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire que ce que j'ai appris avec ces enfants a été extrêmement important pour moi. Je dis même, alors même s'il y a des gens qui disent non, 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 c'est important pour nous, que ce que j'ai appris avec eux au cours des années était plus important pour moi que pour eux. Il aurait pu y avoir un autre, enfin d'ailleurs il y avait d'autres moniteurs, etc. Mais moi, ça m'a, je crois que ça m'a construit. J'ai été plusieurs années colon, et puis, sauf pendant 2 ans, j'étais trop vieux pour être colon et trop jeune pour être moniteur. Et après, je suis moniteur, responsable pédagogique. Voilà. Et il se trouve que maintenant, mes enfants ont été colons à leur tour. Alors, il y avait autour d'eux, il n'y avait plus d'enfants dont les parents avaient été déportés. C'était valable pour ma génération. Et puis, ils sont devenus responsables pédagogiques et c'est mon petit-fils qui va toujours dans les mêmes colonies de vacances. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a il y a un rapport avec les autres enfants. Qui n'est pas le rapport qu'on a à l'école, où on va à l'école pour apprendre des choses précises et on rentre à la maison. Mais voilà, c'est. Alors maintenant, les camps de vacances, il y avait beaucoup moins, je crois. Je crois qu'à la Libération, il y avait plus de 4 millions d'enfants qui allaient en camp de vacances. Maintenant, il y a 800 000. Donc les parents vont en vacances aussi. Ça racontait aussi que les parents ne prenaient jamais de vacances. Moi, je ne me souviens pas de mes parents en vacances. Ça, c'est. Alors après, quand j'étais adulte, on prenait une semaine ensemble. Voilà. Mais c'est important les colonies de vacances, surtout lorsqu'on était que l'on soi-même, qu'on a eu le sentiment d'avoir appris quelque chose, qu'on a envie de transmettre, ça aussi.
Oui, c'est très beau ce que vous dites, parce qu'effectivement, alors, quand j'ai lu ce passage et d'autres de votre livre, en reprenant Quoi de neuf sur la guerre, j'ai trouvé un extrait qui me semblait bien commenter ce que vous venez de raconter pour l'épisode de la moto, l'épisode du vélo, où ces enfants-là, particulièrement fragiles, reprennent confiance jusqu'à devenir insouciants, ce qui était impossible. Et j'ai trouvé une liste de quelques mots, c'est vous qui le dites. Alors je reprends, c'est un tout petit extrait dans Quoi de neuf sur la guerre, et que j'aime beaucoup. Alors vous faites allusion à Luba, qui est la directrice de la maison d'enfants. Alors je vais vous lire le passage. Quelques jours après, ne parvenant pas à mettre en forme le récit de Luba, j'ai dressé, pour les utiliser plus tard, une liste de quelques mots. Une trace, un repère, continuité, présence rassurante, un lien, le prolongement, partage, fidélité, ténacité, rassurer, tranquilliser, calmer, apaiser. J'ai vu dans ce passage autant de qualités du moniteur que vous avez appris à être et que vous nous donnez à lire vos lecteurs, qui sommes professeurs en l'occurrence pour beaucoup, et peut-être aussi à ceux qui écouteront cet enregistrement. Et nous avons tout à y gagner dans cette liste que je trouve très belle, puisque vous parliez vous-même de transmission à l'instant, ce sont les vertus de la transmission. On peut transférer tous ces mots et tous ces verbes, trace, repère, continuité, partage, c'est la lecture, ce sont les photographies que vous partagez avec nous dans vos films, ce sont vos films, et les buts communs sont ceux que vous évoquiez donc dès ce livre de 1993, rassurer, tranquilliser, calmer et apaiser. Cette relation-là aux enfants, pour conclure, peut-être avec une question un peu plus générale, les enfants d'Andrézy, vos petits-enfants, votre expérience, vous en tant que colon, donc enfant, puis ensuite moniteur avec des enfants, même l'expérience aussi d'enfants cachés que vous racontez, votre expérience de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi les enfants occupent-ils une telle place dans votre œuvre ?
Bon, ça, je ne sais pas. J'ai hésité parce que je cherchais une réponse, mais je n'en ai pas. Alors, les enfants me touchent. C'est comme ça, il y a des gens. C'est curieux parce que l'autre jour, j'ai parlé au téléphone avec une amie on se parle souvent. Et puis, dans ce genre de conversation, l'âge aidant certainement, on se dit, voilà, est-ce qu'on est content de ce qu'on a fait, la vie qu'on a menée, est-ce que c'était... Et j'ai dit comme ça m'est venu, donc tout naturellement, si je devais revivre une vie, je crois que je l'aimerais vivre en tant que mère de famille nombreuse. Voilà. Elle a trouvé ça très étonnant, mais ça m'est venu comme ça. Et si ça m'est venu comme ça, c'est que je suis très attaché. Il faut que je me méfie des fois quand je vois un petit enfant comme ça qui court devant ses parents. Je le suis du regard et je me dis, si la mère me voit, elle va se dire, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur ? Mais voilà, les enfants. Très attaché. J'ai été amené à réfléchir là-dessus. Et en fait, quand je vois un enfant, ce qui me touche, c'est l'innocence. Voilà. Ils ne savent pas que le mal existe. Ils commencent à perdre un peu de leur innocence quand il y a du refus. Ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, les parents disent non. Les enfants apprennent à dire maman, papa, et je crois que le mot qui vient juste après,
Oui,
c'est non. Parce
c'est ça.
qu'effectivement, il ne faut pas toucher un couteau, il faut pas que ce
Oui,
soit
oui.
là-bas. Et à ce moment-là, ils sont obligés de calculer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est l'interdit qui commence à. Mais avant, l'enfant, il faut essayer de garder cette innocence le plus longtemps possible. Enfin, et je ne parle pas de l'innocence sur le plan juridique, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Robert Vaubert.